France Culture, l'émission que vous allez entendre a été diffusée en février 2009.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Si je reprends le micro avec une très grande joie, c'est pour accueillir le professeur André Grimaldi, que je voulais inviter depuis longtemps déjà, pour parler avec lui de la situation hospitalière en France. Professeur André Grimaldi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de diabétologie métabolisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et je voudrais avec vous faire le point sur l'hôpital public en France. Nous avons et nous avions une excellente médecine en France, à la fois compétitive et solide sur le plan de la recherche, très généreuse sur le plan social. L'hôpital a été le lieu même de l'accueil, de la solidarité et de la compétence. Et la France pouvait s'enorgueillir d'avoir une médecine à la fois égalitaire sur le plan national, démocratique et compétitive par rapport aux autres pays du monde. Les choses semblent avoir pas mal changé depuis 25 années. Qu'est-ce qui a rendu possible la dégradation à laquelle on a assisté dans les décennies suivantes ?
Alors, l'hôpital, au fond, est victime de deux crises qui se combinent, auxquelles il faudrait rajouter la crise de la société et la crise économique mondiale.
Bien sûr.
Alors, ces deux crises, c'est d'une part, au fond, une crise d'adaptation qui est naturelle, qui est due au progrès de la médecine, à l'augmentation et au changement des besoins de population, et qui nécessite une adaptation. Je prends deux exemples. Aujourd'hui, vous faites un infarctus du myocarde, vous avez 6 heures, pour arriver dans une salle de coronarographie où des cardiologues, qu'on dit cardiologues interventionnels, pourront déboucher votre artère et éviter l'infarctus, la nécrose du myocarde. Vous faites un accident vasculaire cérébral qui donnait avant une hémiplégie irréversible. Aujourd'hui, vous avez 4 heures pour arriver dans un centre spécialisé où on pourra dissoudre le caillot. Ça nécessite une modification complète des structures. Vous ne pouvez pas avoir ces centres partout. Il faut qu'ils soient répartis sur le territoire. Il faut qu'ils travaillent en réseau. Donc, c'est toute une organisation du système de soins qu'il faut mettre en place. Alors, elle est en partie, cela se fait, mais cela se fait avec des distorsions, avec des inégalités, et une vraie loi hospitalière se consacrerait essentiellement à cette question. Et puis, il y a une deuxième crise, qui est une crise, je dirais, proprement politique, alors, que je qualifierais de maltraitance de l'hôpital public. L'hôpital public a été victime de 3 décisions politiques profondément erronées. La première qui remonte, effectivement, vous avez raison, à au moins 2 décennies, qui a été cette idée répétée par certains avec constance. Nous avons trop de médecins en France. Ceux qui disaient ça à l'époque continuent à le dire. Donc on est passé de 8500 médecins formés à 3500. Alors ça a beaucoup de conséquences, parce que finalement il y a des hôpitaux qui n'ont plus renouveler les médecins quand ils partaient à la retraite, qui sont trouvés désertifiés. Deuxièmement, ce manque de médecins a favorisé ce que j'appellerais une espèce d'ultralibéralisme médical, revenant à des dépassements d'honoraires, en position de force en quelque sorte sur le marché, ce qu'exprimait de manière assez honteuse le président du syndicat des gynécologues et obstétriciens libéraux, disant « Si les femmes ne peuvent pas payer les dépassements d'honoraires en clinique privée, elles ont qu'à aller se faire soigner à l'hôpital par des médecins à diplôme étranger. Propos assez scandaleux. Mais qui reflète une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes radiologue, vous gagnez 3 fois plus en ville qu'à l'hôpital. Si vous êtes cardiologue, vous gagnez 2 à 3 fois plus en ville qu'à l'hôpital. Si vous êtes chirurgien, c'est pareil. Donc les conséquences de cette réduction du nombre de formations de médecins est la toile de fond qui va bouleverser le système. Parce qu'au fond, un certain nombre de gens disaient, et c'est vrai en chiffre absolu, on va dire, mais il y a beaucoup de médecins en France. Oui, mais si on faisait ça, il fallait changer le système. Fallait revoir les conditions d'installation. Fallait revoir la répartition des tâches entre médecins et infirmières. Or, on n'a pas fait ça du tout. On a laissé le même système en place et on a réduit le nombre de médecins. On a non seulement réduit le nombre de médecins, on a réduit le nombre d'infirmières.
C'est ça aussi.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, de manière assez scandaleuse quand même, on importe à prix d'or des médecins, vous avez vu l'article tout récent,
bien sûr,
des médecins roumains qui vont faire défaut dans leur pays et qui viennent remplacer les médecins qu'on n'a pas formés en France, alors qu'on a collé les étudiants qui voulaient faire médecine avec des 14 de moyenne, qu'on a créé des drames personnels. Bon, il y a une espèce de politique vraiment nulle. Non, personne ne fait autocritique.
Mm-hmm.
C'était tellement une espèce d'opinion générale, d'idée unique, de pensée unique, qu'en 95, la Sécurité sociale payait les médecins généralistes pour qu'ils partent en retraite anticipée,
mm-hmm.
pour combattre la pléthore, disait-on. Alors, deuxième maltraitance, les conditions dans lesquelles sont faites l'application des 35 heures aux hôpitaux.
Oui.
Qui a, dans un, alors qu'on était en pénurie d'infirmières, on l'a brutalement aggravée. Ce qui fait que, et infirmières et médecins ne peuvent pas prendre leur repos, qui s'accumule, et qui est une espèce de couperet à retardement, de bombe à retardement sur l'hôpital. Et enfin, ce qui, je pense, va achever l'hôpital public que nous avons connu, ça a été le changement de financement de l'hôpital.
Mmh.
Non pas que le financement antérieur ne devait pas être modifié, il avait de gros défauts,
mmh.
mais on a mis un financement marchand. On a dit d'un air de bon sens, on va mettre en place un paiement à l'activité. Au fond, vous vous dites, bah, quoi de plus naturel ? Si vous travaillez beaucoup, vous recevez beaucoup d'argent. Si vous travaillez peu, vous recevez moins d'argent. Si c'est des malades graves, ben vous êtes bien payé. Si c'est des malades peu graves, vous êtes moins payé. Tout ça semble de bon sens. Oui, mais tout le problème, c'est à ce moment-là de mesurer réellement l'activité. Or, figurez-vous que il y a 5 ans qu'on a mis en place ce système. Jean-François Mattei était alors ministre. On a complètement oublié que les hôpitaux prenaient en charge les malades les plus pauvres,
mmh.
qu'ils arrivaient donc tard, qu'ils ne pouvaient pas sortir facilement de l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas où aller, qu'on n'en voulait pas dans les maisons de convalescence ou en soins de suite.
Mmh.
Et donc, en gros, en moyenne, ça a été fait, le calcul a été fait, alors le coût est d'environ 30% plus élevé. On avait oublié aussi que les hôpitaux prenaient en charge les pathologies les plus graves. C'est tellement vrai que Mme Bachelot, à juste titre, se vante de dire l'an prochain, donc toujours pas actuellement, mmh. l'an prochain, on va commencer à prendre en compte la précarité et la gravité. Donc c'est affolant qu'on ose dire les hôpitaux sont en déficit. Quand on dit on paye pas la précarité, on paye pas la gravité, alors c'est pas tout ce qu'on paye pas. On paye pas non plus le recours. Vous savez, les malades qui sont en clinique ou ailleurs et qui s'aggravent et qu'on transfère à l'hôpital.
Mmh.
Alors ces malades sont évidemment plus graves, ils arrivent dans des conditions souvent d'urgence et ils vont coûter plus cher. Ah ben ça c'est pas payé non plus, vous êtes de recours mais vous ne recevez absolument rien. On n'a pas pensé qu'il était indispensable qu'il y ait des lits vides dans un hôpital, en pédiatrie. Parce que si vous voulez accueillir les enfants qui ont une épidémie de bronchiolite, il faut qu'il y ait des lits vides. En grande réanimation, ce qui fait que dans Paris, l'obsession des médecins maintenant est de travailler à flux tendu comme on dit. Pour reprendre le langage de l'entreprise, c'est-à-dire les lits tous occupés. Alors il arrive qu'on ait un malade qui attend 1 heure, 2 heures en ambulance, que se libère un lit, qu'on fasse au plus vite sortir un malade, pas trop grave, qu'on peut néanmoins caser quelque part, et on va libérer un lit. Et ça peut donner donc des catastrophes, ou ça pourrait donner des catastrophes. Donc on n'a pas pensé ça, c'est un peu comme si on pensait qu'on paye les pompiers seulement quand il y a le feu, quoi. Hein, alors les malades chroniques, la médecine, qui est faite à l'hôpital. 85% de la médecine, c'est l'hôpital. 98% des accidents vasculaires cérébraux, c'est l'hôpital. Alors là, on n'a pas pensé du tout à un financement particulier. C'est pas pareil du tout d'avoir un diabète peu compliqué et un diabète compliqué qu'on n'accepte pas avec... Bon, tout ça est dans le même tarif. Parce que la grande supercherie de cette histoire, c'est que il y a 10 000 pathologies.
Mmh.
Il y a 3 à 4 facteurs de gravité par pathologie. Il y a des problèmes psychologiques et sociaux et on fait rentrer tout ça dans 750 codes qu'on appelle groupes homogènes de séjour.
Mmh.
C'est-à-dire que ces groupes homogènes sont très hétérogènes. Et finalement, quand vous êtes du bon côté de l'hétérogénéité, c'est-à-dire du côté du malade pas trop grave, standard, vous êtes gagnant. Et quand vous êtes du mauvais côté, vous êtes perdant. Et comme par hasard, l'hôpital est du mauvais côté. Alors pour voir que tout ça, au fond, pourrait même soulever de l'humour, mais touche pas loin du drame. On n'est pas loin de choses qui peuvent menacer l'humanité, quelque part. Je vous rapporte l'échange entre M. Leonetti, député UMP, et la directrice, Mme Aoustin, qui s'occupe de la tarification des hôpitaux,
oui,
sur le problème du financement des soins palliatifs.
Mmh.
Vous savez que 80% des Français meurent à ce jour à l'hôpital.
Oui.
Alors 80%. On en parle peu, 80%, ils ne meurent pas en clinique, ils meurent à l'hôpital. On devrait se préoccuper, non pas seulement des choses d'excellence qui sont faites dans l'amélioration des soins palliatifs, non pas seulement du débat public sur euthanasie, fin de vie, qui agite régulièrement la société, mais aussi des conditions réelles, quand vous n'êtes pas accès à des soins palliatifs, d'indignité dans lesquelles les choses peuvent se passer. Alors je reviens sur ce débat, à la tarification. Donc la mort n'échappe pas à la tarification, au tarif. Monsieur Leonetti, qui s'occupe d'ailleurs bien de ce débat sur la fin de vie, fait remarquer à la directrice. Madame la directrice, lorsque le malade rentre et meurt avant minuit, c'est 800 euros. S'il a l'amabilité de passer le cap, nous voilà à 8000 euros. Et puis 2 jours, c'est 8000 euros, 3 jours, c'est toujours 8000 euros, jusqu'à 15 jours, 8000 euros.
Mmh.
Et il dit, et ensuite les tarifs sont déclinants. Et il dit, je connais des centres de soins palliatifs qui font sortir fictivement le patient pour le reprendre et ainsi faire 2 séjours au lieu d'un. Ne pensez-vous pas, Madame la directrice, qu'au fond, un paiement à la journée, au prix de journée, serait plus adapté et ne coûterait pas plus cher à la sécurité sociale, étant entendu que là, c'est quand même le bon Dieu qui fait sortir le malade, c'est pas le médecin. Et elle a cette réponse absolument sidérante. Elle dit, monsieur le député, ce n'est pas possible, ça remettrait en cause le principe de tarification. Donc on est...
dans une technocratie.
Bon, voilà, espèce de technocratie, capable de faire une réponse pareille. Et ce qui veut dire que, au fond, ce mode de financement, il est fait pour les cliniques privées. Il est fait pour des pathologies techniques, bien codifiées, de gravité moyenne, programmées à l'avance chez les gens qui vont rentrer chez eux. Exemple, une clinique où on ferait que de la cataracte. Et ça me paraît adapté et un bon moyen de financement. C'est totalement inadapté à la fin de vie, c'est inadapté à la psychiatrie, qui n'y est toujours pas rentrée d'ailleurs, et qu'on veut faire de manière aberrante rentrer au ministère et dans les cliniques privées lucratives de psychiatrie. Et c'est pas adapté en gros à la maladie chronique. Donc il faut réfléchir à des modes de financement qui sont adaptés aux pratiques. Évidemment, les cliniques privées sont très attachées à cette T2A qui aura permis de grimper par un jeu d'écriture, d'augmenter leur chiffre d'activité de 9%. J'ajoute que certaines, comme l'Institut Montsouris, ont des logiciels qui permettent de calculer quel est le meilleur codage pour faire facturer le plus élevé, la facture la plus élevée à la sécurité sociale.
Mmh. Alors, voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, monsieur le professeur, si je comprends bien, c'est que dans ce qu'on a appelé la convergence publique-privée, il y a bien aujourd'hui en matière de médecine en France une volonté de favoriser les cliniques privées en poursuivant la politique qui a vidé des hôpitaux et les médecins et les malades au profit de ces établissements-là ?
Absolument, absolument. La France a un système financé par la solidarité nationale.
Mm-hmm.
On s'attendrait à ce que les établissements de soins soient essentiellement des établissements soit publics, soit privés à but non lucratif.
Absolument.
Or, il y a en plus un troisième secteur qui est en plein développement, qui représente un tiers du coût de l'hospitalisation et qui se développe, qui est le privé commercial, mmh, à but lucratif.
Oui.
Alors, l'historique était compréhensible. C'était l'époque où un chirurgien possédait sa clinique, puis léguait sa clinique à son fils devenant lui-même chirurgien. On n'en est plus là du tout. Aujourd'hui, ce sont des consortiums internationaux. Que ce soit la Générale de Santé avec 180 ou plus cliniques, puis ils ont racheté la Croix-Rouge dans le 13e, qui sont des capitaux internationaux, ce qui permet des facilités, je suppose, diverses.
Mm-hmm.
Des fonds d'investissement qui ont racheté les cliniques du Sud, et il y a certains départements en France où il n'y a plus de services publics. C'est tellement vrai que la commission Larcher s'en était émue et proposait au gouvernement d'utiliser la Caisse des dépôts pour prendre des actions, parce que le jour où ces fonds d'investissement disparaissent, le système de santé s'écroule. Donc il est clair que pour les médecins, on va dire d'attachement républicain, dans lequel je me sens et auquel un certain nombre de collègues nous sentons, l'idée de la convergence publique-privée est un arrêt de mort pour l'hôpital. Si le gouvernement, celui-là ou un autre, veut pouvoir construire et réformer l'hôpital, il y a un préalable pour nous, c'est la l'arrêt de cette mesure de convergence publique-privée prévue pour 2012.
Alors, à ce propos, je crois que vous êtes en train de faire signer une pétition ou une lettre au président contre l'actuel projet de réforme qui s'appelle Hôpital, Patients, Santé, Territoire.
Oui, alors, actuellement, 900 hospitaliers, dans lesquels il y a plus de 300 professeurs de médecine, plus de 500 praticiens hospitaliers, des cadres infirmiers. Donc, on n'a pas une réaction corporatiste, on n'est pas effrayé parce qu'on va nous enlever du pouvoir. Mmh. Demande au président, non pas d'abroger la loi ou de la reporter, mais de séparer dans la loi le volet hospitalier du reste de la loi. L'idée d'une gestion territoriale de la santé paraît adaptée, le problème est de savoir comment ça se fera. Mais sur l'hôpital, c'est hôpital-entreprise de manière caricaturale. Mmh. Il s'agit de faire venir des directeurs d'hôpitaux venant du privé, payés avec des salaires identiques au privé, et qui seront là essentiellement pour assurer un redressement financier, en partie fictif, puisque je vous ai dit ce qu'il faut en penser de ce déficit. Il est entendu que ce redressement financier ne doit pas se faire par une augmentation d'activité, ce qui s'est fait actuellement, en multipliant des actes aux besoins inutiles, mais par une diminution de personnel. Donc c'est parti, c'est en route, la loi va accélérer le processus. Au fond, c'est une loi, paradoxalement, qui donne tout le pouvoir au directeur, mais qui est une loi contre les directeurs. Mmh. Un directeur d'hôpital ne peut gérer son hôpital qu'avec les médecins. Et là, on y est. Nantes, suppression de 400 emplois. Nancy, 650. Alors, on n'est plus dans les petits hôpitaux insécures, nous disait-on, qu'il faut fermer parce que la sécurité urbaine n'est pas assurée. Là, on est dans les grands CHU. Mmh. Hein, Le Havre, c'est 550. La Paix, c'était 1000. On négocie, ça va être 600. La région de Marseille, c'est 2000. Et ça va continuer jusqu'à 20 000 à 30 000, ce qui est prévu.
Ce projet de loi, il est en ce moment à l'Assemblée ?
Alors, ce projet de loi est en ce moment à l'Assemblée. Nous rencontrons demain le conseiller du président de la République, M. Raymond Soubi. Je ne sais pas si nous serons entendus, sûrement pas. Nous lui ferons savoir quels sont pour nous les chiffons rouges, la convergence publique-privée et autre mesure, ce projet de loi ne porte plus une seule fois le nom de service public hospitalier. On ne parle que d'établissement de santé, dont le statut est public ou privé, et les services publics sont transformés en mission de service public. Ce qui a l'air de rien, on a l'impression que on ergote sur des mots, mais les choses sont beaucoup plus précises. Ça permet de dire des missions, de les séparer et de les vendre à la découpe.
Au fond, ce que vous nous montrez, André Grimaldi, c'est que nous assistons à un démantèlement du service public hospitalier.
À une privatisation rampante.
Très bien. Eh bien, André Grimaldi, je vous remercie.
Merci à vous.